À la caserne, parmi les nouveaux visages, le capitaine Nakamura, l'officier des renseignements, se distingue de nos camarades avides de femmes et mène une vie solitaire. Un après-midi, en lui rendant visite, j'aperçois dans sa chambre un go-ban. Sans tarder, nous commençons une partie. À mon grand étonnement, brouillon et empoté dans la vie, le capitaine joue avec adresse et désinvolture. À la caserne, il a acquis la réputation d'un fou. Il voit des complots partout. Sur le damier, cette obsession se transforme en une prudence exacerbée. Après sa défaite, le capitaine m'invite à dîner. Quelques coupes de saké suffisent à faire de nous les meilleurs amis du monde. Nous discutons de littérature chinoise. Il s'étonne que je parle le mandarin. Le go oppose les êtres autour d'un damier mais leur donne dans la vie une confiance réciproque. Sans hésiter, je lui ouvre mon cœur. Une Pékinoise avait suivi son mari étudiant à Tokyo. L'homme mourut d'un cancer, la laissant seule au monde avec un nouveau-né. Parlant trois mots de japonais, sans argent, elle frappa à toutes les portes pour solliciter un emploi. Mère l'engagea comme nourrice. Mes parents, comme tous les parents du Japon, m'avaient élevé avec une implacable sévérité. Au moindre écart, je recevais une paire de gifles. Les joues en feu, les larmes aux yeux, je me précipitais dans les bras de ma chinoise qui pleurait mes malheurs. Pour effacer la douleur, elle m'étreignait et me contait les légendes de son pays. Le chinois fut ma langue de rêve et de consolation. Plus tard, elle m'apprit à réciter les poèmes de la dynastie Tang et à écrire. Elle m'enseigna l'entretien de Confucius, me fit découvrir le rêve du pavillon rouge. Quand je lisais ses textes à voix haute, ma prononciation à la pékinoise provoquait chez elle des sanglots de joie. Elle allaita mon frère et ma sœur, nous enivra de sa tendresse. Puis un matin, elle s'évanouit. Un an plus tard, mère coupa court à mes illusions. Elle était retournée dans son pays et ne reviendrait jamais. Ma confidence fait soupirer le capitaine. Il vide un verre de saké et change de sujet. Savez-vous qu'au centre de la ville, il y a une place où les Chinois se réunissent pour jouer au go? C'est un spectacle extravagant. Les joueurs s'assoient à des tables gravées en damier et attendent qu'on vienne les défier. Vous qui parlez le chinois avec un superbe accent pékinois, vous devriez vous déguiser en civil et y jouer une partie. Il avale un autre verre de saké et poursuit. Mes informateurs ont beau m'assurer que ce sont des sujets inoffensifs, je suis persuadé du contraire. Depuis que les terroristes se sont introduits dans la ville, j'ai l'œil sur tout le monde. Ces gens-là intriguent pour nous perdre. Le go n'est qu'un camouflage. C'est sur cette place, sous prétexte de jouer à la guerre, que nos ennemis combinent leurs coups tordus. Cramoisi, le capitaine sombre dans un univers imaginaire. Je feins l'intérêt. Mais comment pourrais-je me travestir? Faut-il louer une chambre dans un hôtel pour me changer? Il prend ma question au sérieux. Tout ceci restera entre nous. Je vous couvrirai. Dès demain, vous irez chez un homme à moi, qui tient le restaurant Shidori. Il vous prêtera les accessoires. Il vous expliquera comment tromper la méfiance des Chinois. Si les terroristes se sont retirés de la cité, leurs agents sont partout. Ils trament un nouveau soulèvement. Mais cette fois, je les aurai. Merci de sacrifier votre repos au service de la patrie. Venez, lieutenant. Trinquons à la gloire de l'empereur. Je comprends alors qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il est trop tard pour refuser. Je vide ma coupe de saké et scelle notre accord. En vérité, le capitaine est un malin et sa bizarrerie un leurre. Au moment même où je pénétrais dans sa chambre, il savait déjà qu'il ferait de moi son espion. En jouant au go, il a tressé les raies qui m'enserrent à présent. Je suis obligé de me glisser dans la peau d'un chinois.